S'il vous plaît, ça fait 8 mois que je suis au chômage. Là, il m'a regardée. J'ai cru que mon cœur allait exploser. Mais bon, il a dû me trouver assez convaincante parce qu'il m'a dit...
Mais pour être cover girl, t'es un peu trop petite et un peu trop tarte. Voilà, c'est tout. Les taches de rousseur, l'année pointue pour être cover girl, hein.
Bon, eh bien, allez, on ne va pas vieillir ensemble ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de cinéma, d'idoles, de production, de mythomanie et même de Nino Ferrer. Plateau mytho avec Sandrine Kiberlin en fan de Laurent Lafitte dans Elle l'adore de Jeanne Herry. Un nouveau personnage de femme modeste que la comédienne fait basculer cette fois du côté de la fantaisie, Benoît Lagame.
Oui, dans ce film, Sandrine joue Muriel, fan d'un chanteur et prête à tout, l'occasion pour l'actrice de montrer toutes les facettes de son art entre comédie et mélancolie.
La session live ce soir, univers Nino. Benoît ?
Oui, on retrouvera pour un titre en direct du studio 108 la chanteuse Ornette au piano et le clarinettiste Denis Colin pour un extrait de leur album Concept qui revisite à leur manière l'univers musical de Nino Ferrer.
Avec nous Christophe Donner qui signe « Quiconque exerce ce métier stupide mérite tout ce qui lui arrive », un roman biographique sur 3 héros du cinéma français, Claude Berry, Maurice Pialat et Jean-Pierre Rassam, une chronique familiale et cinéphile de la société française autour de 68, placée sous le signe d'Orson Welles, Manu Farine.
Au générique donc, le trio infernal Berry-Pialat-Rassam, ou comment le cinéma permet aussi à Christophe Donner de parler de son propre programme littéraire.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal, plutôt le supplément week-end de Benoît Lagan, mais on ouvre d'abord avec le son du jour quotidien de Zoé Sfez. Figaro, 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 Figaro,
Figaro. Vous avez peut-être reconnu l'habillage de LCI, la bataille pour la reprise de la chaîne d'info payante de TF1 Ferrage. Déjà, 6 offres de reprise ont été déposées. Le trio d'actionnaires du Monde, Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Pierre Berger, semblent particulièrement décidés. Ils ont fait savoir qu'ils étaient prêts à reprendre la chaîne sans le nom. Et maintenant, c'est le Figaro qui sort du bois. Le président du conseil de surveillance de la société, maison mère du groupe, indique qu'il étudie sérieusement et discrètement les éléments du dossier. Alors, qui va l'emporter ? TF1 donnera sa décision mardi prochain.
Comme tous les mercredis, eh bien, le journal de la culture, c'est le supplément week-end avec Benoît Lagan. Et qu'avez-vous mis à la une ce soir ?
Eh bien, ce soir, vendredi, outre le retour sur l'actualité culture média de la semaine passée, une séquence série à réanimer.
Commencer donc un petit tour de l'actualité culturelle et médiatique. On commence par lundi.
Et lundi, c'était Netflix, le vidéoclub du web qui prétend tuer la télévision, était à l'honneur dans tous les médias, l'occasion pour de nombreux journalistes, tels Léa Salamé sur France Inter, de se laisser berner un petit peu par quelques Netflix communicants, en sortant des énormités du genre.
Ils ont beaucoup de séries, Netflix, et notamment celle qui est considérée aux États-Unis comme l'une des meilleures au monde, Orange is the New Black.
Et oui, juste ça, la meilleure série du monde ! Exit donc Breaking Bad, Urgence. Les services de communication des géants du net ont décidément de beaux jours devant eux avec leur formule toute faite, les meilleurs de la planète, vous dis-je.
Mardi, c'était les rires et les chants.
Et oui, car c'est mardi, 16 septembre, que la France hollandaise, nostalgique de la France giscardienne, célébrait les 40 ans tout rond du monstre gentil, le célèbre Casimir de L'île aux enfants, l'émission de Christophe Izard. Et en France, on peut le dire, il y a eu un avant et un après 16 septembre 1974. Avant, les enfants pouvaient dire...
Oh là là, je m'ennuie.
Et après l'arrivée de Casimir sur la troisième
chaîne...
C'était
même pas la voix de Casimir.
En couleur, c'était Léonard.
Exactement. Hein,
bien, c'était sur la troisième chaîne en couleur, d'où les orangés et verts criards de Casimir et de ses amis. Tous les enfants en redemandaient.
Avez-vous vu Casimir aujourd'hui ?
Oui, oui, et on en parle sur tous les réseaux sociaux numériques. Aujourd'hui, Casimir a même son site web dédié, mais à l'époque, je n'avais pas la télé. Et dans mon réseau social, il y avait Mamie Chobé, la voisine d'à côté, oui, qui m'accueillait tous les soirs à 18h pour suivre Casimir.
Mercredi, c'était encore pour les petits.
En effet, puisque la chaîne Gulli a annoncé mercredi jour des enfants qu'elle allait modifier ses programmes afin de prendre en compte les nouveaux rythmes scolaires et afin que mercredi matin les enseignants ne disent pas
« Bonsoir les enfants, j'espère que vous êtes tous de bonne humeur et que vous ne grognez pas comme nounours. Que faut-il faire quand quelqu'un grogne ? Mon petit doigt me dit qu'il faut le gronder. »
Eh bien, pour éviter que vos enfants grognent et que votre petit doigt vous dise qu'il faut les gronder, désormais le programme familial du mardi soir de Gulli donc, débutera plus à 20h40 comme auparavant, mais à 18h40 afin de permettre aux scolaires de se coucher plus tôt. Bonne nuit les petits.
Dans mon petit quinquin, dans mon petit bouchon, ma gros jean, tu me feras du chagrin si tu dors proche demain.
C'était hier soir que la série éponyme de Bruno Dumont, Petit Quinquin, était diffusée sur Arte. Alors, est-ce que ça a marché ?
Eh bien oui, ça a plutôt très bien fonctionné. Arte peut même faire péter les bouteilles de la bière de la Côte d'Opale, puisqu'ils étaient plus de 1,3 million de téléspectateurs à suivre la drôle de fiction de Bruno Dumont. Bravo à lui.
Et pour, enfin, pour terminer, eh bien, le minute série du supplément.
Et aujourd'hui, une séquence...
La minute série ou le minute série ?
La minute série.
D'accord, c'était mal écrit.
Voilà. Ah bon, ah oui, c'est vrai, effectivement.
Et comme je suis votre marionnette, je lis exactement ce qui
faute
est écrit.
Faute de frappe. Oui. Eh bien aujourd'hui, une séquence anniversaire, Laurent, puisqu'il y a tout juste 20 ans, une petite révolution s'opérait à la télévision. Si vous avez manqué le début, je vous raconte. Tout commence en septembre 1994, quand voit le jour sur NBC, le 19 septembre à 22h, la série Urgence. Alors pour mettre au monde sans douleur cette série, Michael Crichton, médecin, anthropologue, scénariste, c'était l'auteur de Jurassic Park, s'associe à Steven Spielberg et au showrunner John Wells. Et ensemble, les créateurs du Cook County Hospital imposent une nouvelle esthétique plus trash. Les blouses ne restent pas souvent blanches dans Urgence et font œuvre pédagogique.
C'est bon. Pas de signe péritonéo, on le passe au scan, vite ! Demandez un scan du crâne et un de l'abdomen.
Et c'est le docteur Benton qui a raison, car Urgence, c'est l'occasion de passer l'Amérique au scanner. En s'intéressant autant, voire plus aux patients qu'aux médecins, la série offre en effet une très juste radiographie économique et sociale de l'Amérique des années Clinton et Bush Junior.
Moralité ?
Eh bien, avec le temps, 15 ans tout de même, le téléspectateur finit par entrer inconsciemment dans l'intimité des héros, mais sans que jamais cela ne se fasse au détriment des patients et du service. La preuve la plus tangible, si les médecins et donc des comédiens, tels le beau docteur Ross, interprété par George Clooney, finissent par partir, eh bien la série pour autant n'a jamais perdu la tête.
Donc laisse-moi regarder ta tête. Dégagez, docteur Ross, reculez.
Elle doit avoir une lésion du foie.
Oui, on le verra si c'est le cas. Vous ne travaillez pas dans cet hôpital, pas ce soir. Alors asseyez-vous et laissez Carole examiner votre tête.
Ça continue toujours, Urgence ? J'ai complètement
non,
arrêté.
Non, ça s'est arrêté, mais ça a duré 15 ans.
Ça a duré 15 ans, très bien.
Donc 94 plus 15, comptez.
Non, j'en suis incapable. On commence.
19-20, le rendez-vous. Rendez-vous. C'est sur France Culture.
Plateau Fan 2 avec vous, Sandrine Kiberlin, césarisée cette année pour 9 mois ferme après une saison sur tous les fronts. Il y a eu Tip Top de Serge Boson, 9 mois ferme d'Albert Dupontel, Violette de Martin Provost ou encore Aimer, boire et chanter d'Alain René. Et aujourd'hui, eh bien, vous gardez le rythme avec Elle l'adore, le premier film de Jeanne Herry qui sortira mercredi prochain en salle. Vous y jouez Muriel, une esthéticienne, fan absolue depuis sa jeunesse d'un chanteur, c'est Vincent Lacroix, une sorte de Patrick Bruel qui joue au poker, interprété par Laurent Lafitte. Un soir, elle le voit débarquer chez elle, il a des ennuis, il lui demande de l'aide. Elle doit prendre sa voiture avec quelque chose qu'elle ne doit pas regarder dans le coffre. Elle va se rendre en Suisse chez la sœur du chanteur qui devrait prendre les choses en main. Elle accepte sans hésiter. Normal, elle l'aime, elle l'adore. Bande annonce.
Il m'est arrivé un truc un peu dingue ce matin. J'ai épilé une dame, elle avait pris rendez-vous sous le nom de Barbie. C'était une petite dame, châtain, juste avec un petit accent étrange.
Au revoir Madame Barbie, bonnes vacances.
Au revoir Muriel, à bientôt.
À bientôt. Pouf, déclic, l'accent allemand. Je me dis, oh putain, je suis en train d'épiler la fille de Klaus Barbie.
Non.
Il m'est arrivé un truc un peu dingue l'autre jour. Vincent Lacroix m'a demandé de l'aider à se débarrasser du corps de sa compagne et je l'ai fait. Il avait l'air complètement désemparé.
Mais pourquoi tu racontes des trucs comme ça ? Arrête !
Ben voilà, j'ai plus aucune nouvelle de ma compagne, Julie Dorieux, depuis 4 jours.
Muriel, s'il te plaît, dis-moi la vérité.
Mais Étienne sait la vérité, il faut me croire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, s'il vous plaît ?
Mais c'est impossible !
Mais pourquoi ?
Parce qu'il y a 15 personnes autour de toi qui peuvent témoigner que tu racontes tout le temps n'importe quoi.
Vous connaissez Muriel Bayen ?
Oui. Enfin, j'ai vu 100 fois, mais pas dire que je la connaisse vraiment.
Mademoiselle Bayen, vous êtes désormais placée en garde à vue.
Putain.
Pour le moment, on n'a rien. Elle a disparu de la circulation. Aucun témoin.
Mais le chanteur, il est comment ?
Il est pas mal.
Il est louche. Je peux pas croire qu'il soit au courant de rien.
Je me dis que j'ai vraiment pas de chance parce que il y en a dans toute la France des fans de Vincent Lacroix.
Oh, stop ! Stop !
C'est pas une amie, hein. C'est même pas une copine. C'est rien. C'est juste une fan.
Sandrine Kiberlin, vous dites que le prénom d'un rôle, c'est important et que cela vous aide à incarner un personnage. Ça a été le cas de Sally dans Tip Top de Serge Boson. Est-ce que ça a été ici la même chose pour Muriel ?
Oui, ça a été la même chose. C'est vrai que c'est un prénom, je trouve, un peu désuet, un peu chantant aussi, un peu enfantin, un peu qui évoque une vie simple, une vie modeste.
C'est la Muriel de Chantal Akerman.
Ça peut, mais en tout cas, ça m'évoquait oui quelque chose déjà. Je visualisais un costume, un rythme. C'est très étrange les prénoms.
Quel genre de costume vous visualisez ?
Alors, elle est esthéticienne, elle est ouais. mère de famille et tout ça. Donc, il y avait un truc aussi avec son... Non pas que toutes les esthéticiennes doivent être habillées pareil, mais en fonction de son métier aussi, j'imaginais des choses. Elle a... c'est aussi quelqu'un qui a de la fantaisie, qui ment pas mal, qui baratine pas mal. Donc, je voyais des petites couleurs dans un truc assez sobre, assez... Là aussi, assez simple, des matériaux. On voit que c'est des matières qui sont pas forcément... Qui dénonce une petite catégorie sociale pas forcément privilégiée. Et non, des petites choses comme ça, des petits détails qui moi, m'aident à construire mon personnage.
Benoît. Oui, Muriel, justement, est un personnage modeste. Or, à ce sujet, je me souviens qu'Agnès Varda, vous avez dit un jour que vous jouiez très bien les personnes modestes. Une remarque qui vous avait beaucoup touché. C'est un des plus beaux compliments qu'on ait pu vous faire, c'est ce que vous disiez à l'époque. Pour quelle raison ?
Bah parce qu'en fait, elle a mis le doigt sur quelque chose que j'avais pas réalisé, si vous voulez. Que je trouvais ça, je me suis dit qu'elle avait vraiment sûrement étudié mon travail pour arriver à dire un truc pareil. Et en fait, j'ai réalisé effectivement que les personnages qui m'ont beaucoup touchée dans des personnages que j'ai pu jouer, je pense au film de Laetitia Masson ou à Mademoiselle Chambon ou là à Muriel. Où là, il y a plus d'humour et les gens rient plus, mais sont des personnages effectivement assez modestes, assez dignes en fait. Leur dignité me plaît, c'est un truc que j'aime bien jouer, une espèce de des personnages qui sont dits banals ou normaux et qui deviennent des héros malgré eux. Elle est héroïne malgré elle et elle a pas le statut comme ça ou l'allure ou l'ampleur d'une héroïne au départ, mais en fait, qui sont les héros dans la vie? C'est peut-être les gens les plus modestes et les plus dits, plus banals que les autres.
Alors ici, vous interprétez une fan, pas du tout hystérique, hein, comme on le montre généralement
non,
au cinéma. C'est pas du tout Misery, par exemple.
Non.
Le personnage n'est pas une fille perdue, genre rêver seule dans son huile, toute seule le soir dans ses draps roses, comme dirait la chanson. Non, mm-hmm. C'est plutôt une femme qui a des amis, qui a une vie sociale, qui a un métier, deux enfants, divorcée. La réalisatrice est la fille de Miu Miu et de Julien Clerc, donc mm-hmm. le monde des fans, elle le connaît.
Elle connaît, ouais.
Qu'est-ce qu'elle vous en a dit pour ce film ?
Elle m'a donné son scénario à lire et tout était dit. Non, je trouve que sa fan est très, très bien écrite, dans le sens où elle voulait justement mettre en scène une fan pas comme on les avait déjà vues, non pas qu'elle n'aime pas Misery et tout ça, mais c'était pas son thème.
C'est pas le cercle des pantins non plus.
Non, du tout. La valse des pantins.
La valse des pantins.
C'est proche, c'est proche.
C'est pour voir si vous suiviez.
Oui, je suis.
Je vous suivais.
Je suis très bien. Non, c'est sa volonté, c'était, je crois que c'était lié à des souvenirs d'enfance, hein, sans doute. Elle a vu de très près, elle, la scène, donc la lumière et son père dans la lumière, et elle a vu les coulisses et les gens qui sont comme ça, des admirateurs de gens de scène, même de bêtes de scène, j'allais dire, mais d'hommes de scène en l'occurrence, des chanteurs qui ont un accès direct à leurs chanteurs, mais qui ne sont pas forcément effectivement dans l'hystérie ou intrusif. Elle n'a jamais été gênée par ces fans-là, elle en a même été touchée. Elle a eu sans doute affaire à 2-3 fans du genre de Muriel, c'est-à-dire des femmes qui ont mari, enfant, vie plutôt équilibrée, mais qui ont une pièce réservée aux chanteurs avec un ensemble de pochettes d'albums.
Une encyclopédie.
Oui, une encyclopédie. Et c'est d'ailleurs, elle me disait, elle me racontait que c'était la masse qui l'impressionnait, la masse de tickets, de concerts, la masse. Et donc, elle se posait la question de savoir, même d'un point de vue purement matériel, c'était vraiment un budget. Il y avait certainement, sans doute, dans la vie de ces gens-là, un budget réservé aux chanteurs pour pouvoir avoir accès aux tournées, pour pouvoir prévoir, même anticiper sur les tournées. Elle a entendu des choses et vu des choses dont elle s'est servie pour le personnage de Muriel et le personnage du chanteur que joue Laurent Lafitte.
Christophe Donner, vous avez vu le film. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a plus particulièrement marqué ?
Ben oui.
Il m'a fait poser la question.
Et ça continue. Pourquoi on ne prononce pas le nom de Julien Clerc ?
Si, on l'a prononcé.
On l'a prononcé, oui.
Non, vous avez pas dit Julien Clerc. Vous avez dit.
Si, c'était la fille de Patrick et de Julien Clerc.
Ah bon, d'accord. Mais moi, ça m'a fasciné justement pour ça. Parce que c'est. D'abord, je connais un peu Laurent Lafitte. Je ne savais pas qu'il était le sosie de Julien Clerc.
Ah oui, vous avez trouvé aussi alors.
Mais je m'en suis rendu compte dans le film.
Eh bien, Jeanne s'en est rendu compte aussi en le filmant.
Et c'est ce que j'ai lu après. Ça, c'est fascinant. C'est quelqu'un qui fait un film sur son père. Elle prend un acteur qui, a priori, ne ressemble pas à Julien Clerc, qui tout d'un coup commence à ressembler à Julien Clerc.
Surtout qu'il ressemble normalement à un autre comique, plutôt. Il ressemble à un comique qui s'appelle, enfin celui qui faisait Bégonvalle.
Michel Leb.
Michel Leeb. Je n'avais plus dit. Il ressemble plutôt à Michel Leeb, a priori.
Il doit être un peu caméléon.
Oui,
il doit,
c'est ça.
Il doit arriver,
donc là, il ressemble à Julien Clerc.
Comme tous les bons acteurs, il arrive.
En tout cas, elle n'a pas voulu faire un film sur son père.
Non.
Elle a voulu faire justement un film sur un chanteur non identifiable, parce que sinon, elle l'aurait fait chanter à la manière d'eux. Et ce qui est très intelligent dans le film, c'est qu'il ne chante pas. Donc on peut projeter n'importe quel chanteur. Chacun y voit son chanteur, en fait. Il y a une carrière, c'est effectivement un chanteur de la veine de ces chanteurs-là, c'est-à-dire de variétés de haut de gamme, comme on peut imaginer. Ça pourrait être Bruel, ça pourrait être... D'ailleurs, avant de choisir Laurent Lafitte, elle a failli choisir d'autres acteurs. Ça a été long, le chemin était assez long, qui aurait pu vous évoquer plus facilement Bachung. Et... Mais c'est vrai que c'est surprenant d'en arriver à Laurent Lafitte, qui, évidemment, finalement, quand il arrive, c'est vrai, il y a un moment où il arrive chez Drucker dans le film. Et là, on a l'impression... Enfin, moi aussi, j'y ai vu quelque chose de son père, mais elle a été la première surprise, vraiment. Elle n'a pas cherché à...
Non, mais c'est bien que pour un premier film, c'est un film à connotation autobiographique, comme on peut aujourd'hui moi me demander pourquoi je fais un roman avec des personnages ayant existé.
Ça, déjà, on va vous le demander, ça. Voilà. Alors, vous pouvez être
alors c'est étonnant que ça se passe aussi au cinéma et voilà, et personne ne dit rien. Enfin, je veux dire, c'est quand même, si c'est son père... C'est quand même un
coup. Alors, c'est pas son père. Et son père n'a jamais vécu ce que le personnage vit dans l'histoire.
Donc, on est.
Elle se sert, si vous voulez, d'un univers qu'elle a connu pour le décrire, parce que c'est toujours mieux de savoir de quoi on parle quand on décide de faire un long métrage. Donc, elle parle d'un chanteur populaire, mais elle ne parle pas, après, dans les faits, ce qui lui arrive, c'est-à-dire un accident domestique où sa petite amie meurt devant ses yeux alors qu'il n'est pas responsable. Ça n'est pas arrivé à Julien Clerc. Et alors, après, en plus, l'espèce de mensonge, enfin de situation dans laquelle il s'embourbe de ne pas aller se livrer aux flics alors qu'il pourrait le faire, mais bon, il serait sans doute inculpé et ce serait dramatique pour lui de mettre en danger toute sa notoriété, tout ça. C'est encore moins un truc qu'a vécu son père.
Mais
elle se sert de ce héros-là, enfin de cette figure-là, voilà, et de cette figure de fan qu'elle a approchée petite, ouais.
Mais c'est quand même une charge. Vous êtes d'accord.
Mais elle y pense maintenant parce qu'on lui dit, mais c'est marrant qu'on veuille toujours voir...
Que ce soit sur son père ou pas, c'est quand même une charge sur les stars.
Oui, elle a voulu parler de la notoriété. Oui. Ce qu'elle a voulu dire, je crois aussi, qui est intéressant, c'est comme elle a connu ce monde-là, elle a voulu parler de ce qui est un peu un lieu commun, c'est-à-dire de dire que les gens célèbres ont une vie douce, rose et une vie privée plutôt simple et facile. Là, en l'occurrence, sa vie privée n'a pas l'air d'être... en dehors du fait qu'il a l'air d'avoir des certains privilèges et qu'on lui dise oui à tout, ça n'a pas l'air non plus d'être la joie. Il s'engueule avec sa petite copine, il n'est pas... Bon, il y a tout un truc comme ça des gens connus qui finalement sont peut-être plus banals et puis des gens ordinaires qui sont peut-être plus...
Exceptionnels.
C'est aussi... moi, j'ai l'impression que les stars sont haïs. C'est aussi sur cette espèce de façade qui est la passion, les fans, ils adorent, etc. En fait, ils les haïssent. Et la fan, là, elle met son idole dans une situation des plus cabreuses. Cette espèce d'amour qui a fait de la haine.
Non, ne racontez pas tout.
Enfin, il la met dans l'embarras aussi.
Aussi,
enfin,
on va pas dire.
Bien sûr. Mais il y a ce rapport de
leur vie,
il la méprise à un point assez...
Non, moi, je ne crois pas.
C'est rude.
Moi, je crois qu'il lui fait confiance au départ et que comme ça tourne complètement à l'inverse de ce qu'il pensait, il veut sauver sa peau. Mais Jeanne, elle a été beaucoup plus directe que ça. Elle aime Columbo, les faits divers de Faites entrer l'accusé. Elle voit tous ces faits divers qui... partent d'une décision qu'on prend mal ou de traviole et qui fait que notre vie bascule du jour au lendemain dans un truc complètement assommant, quoi. Et donc, aujourd'hui, je connais Jeanne, je vois comme elle est saine, élevée dans vraiment une normalité, justement, avec deux stars comme parents. Et je crois qu'elle a pu oser faire ce film avec des choses très, très radicales parce qu'elle n'a pas connu une telle... folie d'histoire. Enfin, elle a pu organiser dans sa tête une histoire folle parce que son histoire à elle est très simple et très belle avec ses parents, en l'occurrence.
Alors, ces derniers temps, Sandrine Kiberlain, on vous a vu dans des rôles de comédie qui n'est d'ailleurs pas absente dans Elle l'adore, notamment dans les scènes où votre personnage se laisse aller à des petits délires de mythomane. Mm-hmm. C'est assez nouveau dans votre parcours, la comédie. Or, en fait, c'est la comédie, c'est par la comédie que vous êtes entrée au conservatoire en jouant une scène d'Annie Hall de Woody Allen. Quelle scène en particulier vous aviez choisie?
Ah, j'avais choisi la scène où elle, j'adore d'ailleurs, où elle, elle fait connaissance un peu plus longtemps avec Woody Allen, en fait, Diane Keaton, donc, dans l'histoire. Elle l'invite chez elle et elle lui montre les photos qu'elle a accrochées au mur. Et il y a une photo, à un moment, de son oncle qui est mort et elle a un fou rire. Elle a un fou rire, elle dit il est mort, elle a un fou rire. Et lui, il est complètement désarmé parce qu'elle est morte de rire alors qu'elle dit un truc tragique. Ça avait fait beaucoup rire alors qu'on m'avait déconseillé de passer une scène de cinéma. Et j'ai pas fait ça par provocation, mais par conviction. Et comme quoi, il faut être convaincu et sentir et faire ce qu'on sent.
Benoît Lagan.
Oui, vous avez longtemps cru que l'on ne vous offrirait pas au cinéma des rôles dans des comédies. Alors qu'au théâtre, oui, pour quelle raison?
Ah non, oui, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que je me disais, en prenant des cours au conservatoire, j'avais envie de faire du cinéma, moi. Mais je ne savais pas qu'au cinéma, et j'ai compris, en fait, grâce à un moyen long métrage que j'avais fait qui s'appelait « Comment font les gens ?», j'ai compris ce qu'était le plaisir de l'acteur au cinéma avec la caméra, en fait. Moi, j'avais l'impression de pouvoir tout jouer au théâtre. Parce que au théâtre, on peut exagérer les choses, on sait que tout sera entendu ou vu, parce qu'on a le droit de enfin, il y a de l'espace, il y a de l'ampleur, il y a, je sais pas. La caméra, je me disais, ça va m'empêcher de, comme elle est là, tout près, ça va m'empêcher peut-être de d'exprimer des émotions. Or, j'ai eu la chance de jouer dans ce moyen-métrage qu'avait réalisé Pascal Bailly à l'époque, où elle me faisait passer un moment du rire aux larmes sur une scène, je ne sais plus quoi. Mais j'ai eu un vrai déclic ce jour-là, où je me suis dit, mais en fait, la caméra, c'est mieux que tout. C'est carrément elle qui va venir chercher, si elle est bien placée, si je suis bien filmée, et si je suis évidemment bien regardée, les choses que même sur scène, je ne pourrais pas faire, en fait. Et alors là, le cinéma a pris le dessus. Mais il avait déjà pris le dessus quant au plaisir de jouer, au plaisir, pardon, de voir, le plaisir d'aller au cinéma avait déjà pris le pas sur le plaisir du théâtre pour moi.
J'ai pu lire, je lisais des entretiens dans lesquels vous racontiez que c'était le tournage de Quadrille de Le Mercier en 97, et puis surtout le film d'Anesh Shabadia, Romaine par moins 30, en 2009, qui avait été le véritable déclic pour vous, le véritable tournant pour revenir du côté de la comédie, qui n'avait jamais été vraiment abandonnée. Or moi, j'ai le sentiment que c'est aussi par la chanson, les deux albums que vous avez enregistrés, 2005 et 2007, que c'était là que s'était joué véritablement quelque chose qui s'était allégé chez vous.
Oui. Il y a eu toute une période, si vous voulez, de mon parcours d'actrice où on me donnait des rôles très graves, intenses comme ça, que j'adorais jouer d'ailleurs, mais où j'ai eu des rôles très forts. Et avec le rôle que m'avait donné Claude Miller, qui s'appelait L'histoire de Betty Fischer, je crois que c'était en 2001 ou 2002, je ne sais plus. Je me souviens un peu de la date quand même, parce que c'était lié à un moment particulier de ma vie. Mais là, j'avais l'impression toujours d'endosser des rôles qui pesait lourd, quoi. Enfin, qui était grave et qui m'emmenait vers des choses plus sombres. Même si, à couper, je redeviens moi-même, j'avais quand même l'impression toujours d'être le porte-parole de quelqu'un à qui il arrive des choses intenses, quoi. Et j'avais envie de dire aussi ce que j'étais d'autre. Donc ça m'a un peu pesé. Et puis je me suis dit que la meilleure façon de le dire, c'était d'écrire des textes. Je savais pas trop ce que ça allait devenir. Comme j'aimais la chanson, c'est devenu un disque. Enfin, ce truc m'a un peu dépassée. J'ai fait cet album avec des gens que j'ai rencontrés qui m'ont aidé à le faire.
Benoît.
Et donc, tous les jours, nous demandons à nos invités de nous soumettre une idée de son. Et en ce qui vous concerne, Sandrine Kiberlin, vous avez fait ce choix-là.
Chérie, si tu veux que ça boue, si tu veux que ça m'émeut, si tu veux que nous, on refasse du feu, si tu as envie, et si tu veux que je veux, moi aussi. Chérie, si tu cherches moi, si tu veux de l'appui, si tu veux du poids, si tu veux que la nuit, je me mets sur toi, oui si tu veux qu'avec toi, je crie, avant que je m'ennuie,
avant. Identification de ce son, Sandrine Kiberlin.
C'est Mathieu Bogart qui a écrit une chanson que je trouve très belle qui s'appelle « Avant que je m'ennuie ». Bah, c'est un peu pour dire aussi que je suis assez passionnée et fascinée par les auteurs, compositeurs et parler de ceux qui existent aujourd'hui, qui sont très doués et j'adore cette chanson.
Pourquoi avoir arrêté la chanson ? À moins que vous continuiez à écrire des textes.
C'est surtout pourquoi l'avoir...
Commencé.
Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Je me suis longtemps demandé pourquoi je l'avais commencé. J'ai trouvé la réponse. C'était pour ce que je vous ai dit tout à l'heure.
D'accord.
Avoir arrêté, parce que j'ai l'impression que c'était dans mon chemin de faire un album, mais c'était pas ma vie d'être chanteuse, si vous voulez. J'ai joué à la chanteuse le temps d'un album. Peut-être que j'y rejouerai, mais je suis vraiment actrice dans ma vie.
Dans Elle l'adore, vous êtes mytho. Dans Tip Top de Serge Boson, vous étiez klepto. Ça va mieux.
Un truc en haut, on va trouver encore. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ça va mieux. Il faut aller peut-être assez bien pour jouer ces personnages qui dérapent.
C'est Serge Boson, le fait de prendre pour modèle, puisque c'était aussi le scénario de Serge Boson, Isabelle Huppert, qu'est-ce que ça voulait signifier?
Mais j'aime bien que vous me parliez de ce film, parce que j'adore ce film, ouais. Qui est complètement fou, mais tellement, tellement sans tricherie, tellement, tellement le réalisateur. À chaque fois que j'avais un doute, parce qu'avec Isabelle, on s'appelait, elle me disait « tu comprends ?» Je dis « non, et toi, non ». Et à chaque fois, j'appelais mon agent, je lui dis « mais tu sais, je sais pas, j'ai un doute ». Elle me dit « mais revois Serge ». J'allais voir Serge Boson et hop, je rappelais Claire et je lui disais « c'est bon, je le fais ». J'étais tellement conquise par ce mec et sa folie et sa passion et son goût du cinéma. Alors après, c'était super qu'il choisisse Isabelle comme modèle pour moi.
Puisque dans le film, vous tentez de lui ressembler. C'est ouais. Presque Eve de Mankiewicz.
Ah oui, carrément. Mais je finis carrément par lui ressembler totalement.
Oui, de devenir fan d'elle.
Manies, d'être complètement, c'est vrai. Et c'était drôle parce que dans la vie, Isabelle a mis des jeans, a commencé à me demander où j'allais en vacances. Il y avait un truc super étrange qui se passait de se mélanger toutes les deux. Mais en tout cas, dans le film, c'était super, super d'avoir Isabelle qui est quelqu'un qui m'a tellement donné envie de faire du cinéma, que j'ai tellement aimé dans des rôles, qui est une des premières à m'avoir appelée pour me dire qu'elle avait l'impression qu'on se ressemblait quand elle avait vu En avoir ou pas. Enfin, elle est très généreuse pour ça, elle a été incroyable. Et là, on se retrouvait d'égal à égal. Donc c'était pour moi une chance et très inspirant, évidemment, d'avoir elle comme modèle à qui ressembler, quoi. Mais j'adorais ce travail sur le moment d'inventer des choses grâce à elle. C'est-à-dire qu'elle faisait des trucs dans son jeu qui est le jeu d'Isabelle. Et moi, je chopais des détails. Et Serge me disait, plus t'en chopes, mieux c'est. Et il suffisait vraiment de faire l'évolution dans l'ordre pour que petit à petit, je devienne ce qu'elle était. Ouais. Dans le film.
Le rendez-vous, la session.
On parlait de chansons il y a un instant, mais on va en écouter. Benoît Lagan, la
oui,
session.
Avec la session Nino, programmée par notre réalisateur Thomas Beau, avec le clarinettiste Denis Collin et la chanteuse Ornette. On les retrouve donc en direct du studio 108 pour un extrait de leur album Univers Nino, paru au printemps dernier chez Crystal Records, Harmonie en Moody. Un album dans lequel ils revisitent l'univers musical de Nino Ferrer et qui sera défendu bientôt sur scène. Alors en attendant de les voir sur scène, on écoute ce soir votre version de la Roa Madureira, Denis Collin à la clarinette basse, Ornette au piano et à la voix. C'est à vous.
Sourire avant de monter dans une
une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais rien. Qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais l'arbre de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado. La rue Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allée.
Colin et Ornette, extraits donc de leur album Univers Nino. On les retrouvera sur scène en novembre, le 13 au Salmanazar, le Théâtre des Pernets, ou encore le 20 à Boulogne-sur-Mer, dans le cadre du Festival de la Côte d'Opale. Denis Colin, vous qui jouez là de la trompette. De n'importe quoi. De la clarinette basse. C'est-à-dire que j'allais dire clarinette et puis basse est venu tout perturber. Vous êtes à l'origine de ce projet et il y a, je vous cite, un rapport quasi familial avec Nino Ferrer. À quel titre ?
Les parents de Nino Ferrer
sont mes parents.
Je suis
son frère. Nino est mon frère.
Nino est mon frère.
Vous allez tous les.
Lui est le cousin de Julien Clerc.
Et moi-même, je me sens des affinités.
Donc, allez-y. L'oncle de Julien.
Donc, ses parents étaient des amis proches de mes grands-parents maternels. Et c'est une amitié qui était assez rapprochée dans les années 30. En Nouvelle-Calédonie. Et la guerre a séparé tous ces gens-là. Le père de Nino était italien, donc il s'est retrouvé quand même du côté opposé. Mais ensuite, ils se sont retrouvés après la guerre, etc. Et en fait, bon, moi, je n'ai jamais rencontré Nino. Ma mère le connaissait bien, elle a été sa babysitter. Et puis, oui.
C'est drôle. Hein.
Non mais moi j'ai envie de voir les photos en fait.
Mais il y a des photos bien sûr.
Et puis évidemment quand Nino a sorti son premier disque Nino Ferrer qui n'a aucun succès, ben à la maison ce disque est arrivé. On avait un tourne-disque, plein de disques. Et puis celui-là a créé une espèce de d'effervescence. Moi je me suis renseigné, j'avais 7 ans. Et pourquoi cette effervescence pour lui ? Qu'est-ce qu'il a, celui-là, quoi ? On le connaît, c'est un cousin lointain. Voilà comment il m'a été présenté. Bon, d'accord. Et puis, le disque tournait tout le temps. Il a sorti un deuxième, un troisième. Tout ça n'avait vraiment aucun succès. Mais nous, on les connaissait très bien. On les connaissait par cœur, ces chansons. Il a une prosodie particulière qui m'a longtemps habité. Et puis, voilà, à la fin des années 60, je l'ai complètement oublié. Et puis, finalement... Je suis revenu sur
sur Nino Ferrer pour ce projet.
Et alors que vous venez du jazz, hein.
Oui, j'ai pendant toute ma vie, j'ai joué du jazz. Oui. Et je me suis, pour faire ce travail, j'ai écouté l'intégrale, en fait. Tout. Ce qu'ils ont publié, en tous les cas. Et en réécoutant ces trois premiers disques, je me suis dit, oh mon Dieu, c'était lui. C'est-à-dire que j'avais encore ses chansons, mais j'avais complètement oublié que c'était lui, quoi.
Pourquoi il fallait enregistrer cet album dans la maison de Nino Ferrer ?
Bah, c'est-à-dire que une fois que j'ai décidé de faire ce travail sur Nino Ferrer, je me suis renseigné, j'ai donc tout écouté, j'ai lu le maximum de ce que je pouvais lire, j'ai regardé les interviews, tout ce que vous voulez, et puis j'ai voulu rencontrer sa famille, son épouse, ses fils, etc. Donc je suis rentré en contact, et là j'ai sorti les photos, ce qui m'a permis de passer la porte, si vous voulez, avec un accueil formidable. Et finalement, le lieu là-bas que Nino et Kinou, son épouse, ont acquis en 1976, qui s'appelle La Taillade, dans lequel Nino a enregistré, etc. C'est un lieu très accueillant, très vivant, un lieu de culture d'aujourd'hui, quoi, qui n'est pas tourné vers le passé. Il y a un studio qui fonctionne, que Arthur, son fils cadet, essaie de développer. Il y a aussi un peu de matériel avec lequel Nino a enregistré, et ce matériel, nous l'avons utilisé. Ce n'est pas la raison pour laquelle on est descendu, ça c'est un petit clin d'œil affectif.
Sandrine Kiberlin, Christophe Donner, est-ce que Nino Ferrer, ça représente quelque chose pour vous ?
Ah bah c'est incroyable, on m'a demandé de choisir des titres pour une émission que j'ai faite ce matin.
Se tourne vers
vers Mathias, mon attaché de presse favori. J'ai choisi le sud de Nino Ferrer, entre autres, parce qu'il y a la maison près de la fontaine. Enfin, moi, je suis très, 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 très fan. Mais c'est même un chanteur qu'on entendait beaucoup aussi à la maison. Mon père était très, très admirateur de sa musique et de ses paroles et de tout.
Votre père qui était auteur, par ailleurs.
Par ailleurs.
C'est lui qui vous a écrit votre plus gros rôle
au théâtre. Ouais.
Christophe Donner, ça représentait quelque chose ?
Oui, c'était un comique, un chanteur comique. C'était très sympa à chanter. J'étais môme, quoi, donc on chantait ça dans la
Mirza
cour.
Et compagnie.
Ouais, c'était un truc drôle. Puis après, on s'est rendu compte qu'il faisait des chansons sérieuses, le Sud, tout ça, des trucs.
C'était belle.
Un grand compositeur. Alors là, j'étais un peu plus impressionné. Mais moi, je l'aime. Voilà, le téléphone qui sonne, des trucs comme ça, c'était chouette, quoi. Et après, c'est bien d'ailleurs de voir qu'un comique comme ça, qui prend place comme ça, qui s'impose dans l'imaginaire collectif et qui devient quelqu'un d'important, quoi, qui a une sonorité très particulière, un humour très particulier, une mélancolie très profonde. C'est très beau, moi j'aime beaucoup.
Ornette, il y a une chanson particulière que vous aimez défendre dans ce répertoire ?
Oh là là, beaucoup. Laquelle, Denis ?
Ou celle que vous n'aimez pas du tout, comme ça, ce sera plus vite.
Non, c'est vrai que Denis m'a appelé pour chanter ces chansons. J'étais un peu. Moi, j'écris des chansons, mais en anglais, paradoxalement. Donc, chanter Nino Ferrer, c'était beaucoup pour moi, surtout qu'il m'a donné l'intégrale aussi à écouter. Donc, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup sur mes épaules. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il il écrit beaucoup, il est italien, je suis italienne, et qu'il a beaucoup de chansons en italien aussi. Et j'ai aimé, il est musicien comme moi, je suis musicienne, il a une carrière de musicien comme moi, j'ai une carrière de musicienne. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup de liens. Et qu'effectivement, j'avais entendu le Sud de téléphone, tout ça, mais moi j'écoutais la variété italienne des années 60 ou de la musique contemporaine chez moi, donc j'étais passée un peu au travers, à côté, on peut le dire. Et ça a été une vraie. Il avait une approche de musicien, donc je suis rentrée dans la musique de Nino en tant qu'instrumentiste en fait. Donc voilà, c'était très beau. Alors j'aime bien. Je vends des robes et vive à la campagne.
Plateau Beaufrère, on reste dans la famille, sans les photos avec vous, Christophe Donner, journaliste, écrivain, auteur d'une soixantaine de romans depuis le milieu des années 80. Vous signez aujourd'hui « Quiconque exerce ce métier stupide mérite tout ce qui lui arrive » chez Grasset, en lice pour le Renaudot. Ça dresse le portrait d'un trio pour le moins conflictuel et absolument génial. Claude Berry, Maurice Pialat et au centre, le producteur flamboyant Jean-Pierre Rassam, producteur de Godard, Bresson, Jean Yann, le Ferreri de la Grande Bouffe, le Pialat de Nous ne vieillirons pas ensemble, disparu en 85.
Le titre « Quiconque exerce ce métier stupide mérite tout ce qui lui arrive », vous le mettez dans la bouche d'Orson Welles. C'est au moment du Festival de Cannes en 68, une phrase qu'il adresse à Jean-Pierre Rassam. Or, c'est une phrase que vous avez déjà citée dans des textes précédents, dans « La maison », puis j'ai pu lire aussi même « Quand je suis devenu fou ». Qu'est-ce que cette phrase raconte véritablement pour que vous y reveniez comme ça ? Pas systématiquement, mais régulièrement.
Oui, c'est l'antidote à la plainte, quoi. La chose que je déteste le plus au monde, c'est se plaindre, gémir. Et voilà, bon, ça arrive, on est obligé, on a mal, on gémit. Et puis à un moment, il faut se... Voilà, donc... Et puis souvent, c'est ceux qui se plaignent qu'on entend se plaindre, c'est souvent ceux qui ont le moins à se plaindre. Donc, les gens qui font du cinéma, franchement, on n'a pas grand-chose à se plaindre. On est vraiment, on fait un truc super, on est heureux. Donc, voilà, du calme, quoi. C'est vrai que c'est difficile de faire des films, c'est difficile d'avoir un peu de succès pour continuer à en faire. Mais quand même, on en fait, quoi.
Une farine.
Christophe Donner, le livre est présenté comme un roman, en tout cas c'est ce qui est écrit sur la couverture. Vous rédigez son état, oui.
Oui, parce que c'est d'autres.
Son état, oui, bien sûr. Et vous rédigez en fin de texte une courte bibliographie en citant les ouvrages qui ont pu vous être utiles pour l'écrire, parmi lesquels Le Ingrid Cavan et Entrée des fantômes de Jean-Jacques Schoul. Qu'est-ce que ces deux romans-là vous ont appris de votre personnage, en l'occurrence Rassam, que Schoul avait baptisé notamment à travers...
Vous parlez de Schoul et de... Quel autre roman ?
Des deux de Schoul, de Ingrid Cavan, et de Entrée des fantômes.
Celui-là. Ah oui, oui, parce que les deux se ressemblent un peu. Enfin, ils sont le deuxième reprend le premier, donc c'est
voilà,
en fait
parce que le personnage de Rassam qui... traverse.
Ce qui m'a apporté surtout, parce que bon, pas beaucoup d'informations, mais surtout la passion de Schoul sur Rassam. Ce que Rassam pouvait déclencher chez un écrivain comme Schoul, qui est un écrivain, un très bon écrivain, et donc il l'a fréquenté, et comment à la fois il a été impressionné par lui. Et dans ce livre, ce morceau sur Rassam, qui est un petit chapitre...
Il l'appelle Mazar.
Oui, Mazar, est tout à fait différent du reste du livre. Il sort comme ça, il est météoritique, je sais pas. Il passe comme ça, il éclaire le livre de manière très singulière. Et voilà, et donc c'est bien la preuve, s'il en faut encore, que Rassam a semé quelque chose parmi tous les gens qu'il a rencontrés, chez tous les gens qu'il a rencontrés et chez Schoul aussi.
Votre texte est absolument nerveux, extrêmement dialogué, à l'instar, on va dire, du personnage de Rassam. Est-ce que c'est lui qui a donné le tempo, cette vitesse qu'on ressent à vous lire ?
Oui, c'est un plaisir. J'aime bien ce personnage. Il est très agréable à manipuler, à créer, à recréer, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup entendu. Il a rien écrit. C'est surtout des on-dit. Et j'ai rencontré quelquefois des personnes qui l'avaient connu. Je n'ai pas tiré grand-chose de ça. Et en fait, c'est l'ensemble des choses. Mais c'est un illusionniste, c'est un escroc. D'une certaine manière, il fait croire qu'il va faire des films, il fait croire qu'il a de l'argent, il en a un peu, il en a plus qu'on croit, on ne sait pas exactement. Il fait croire qu'il va faire des films. Pour arriver à faire un film, quand on est producteur, il faut d'abord faire croire qu'on va y arriver. Et sinon, personne vous croit et donc ça ne marche pas. Et lui arrivait comme ça à faire croire qu'il avait tous les moyens de faire et il arrivait par la parole. Et donc il faut beaucoup de dialogue pour ça. Bon, je peux dire que ça, moi j'ai grandi dans un milieu de militants communistes et là la parole avait beaucoup d'importance pour gagner son peuple, son monde. Il fallait savoir manier la parole, ce qui n'est pas mon cas. Et donc je suis assez fasciné.
Votre cas, mais c'est exactement ce qui se passe dans le roman, extrêmement dialogué. Vous mettez de la parole absolument partout.
Oui, mais moi dans la vie là, je bafouille, je suis un peu j'ai pas de répartie, je suis très paralysé, très timide. Bon, donc ça va pas du tout. Et donc de faire ça, de mettre ça dans la bouche d'un personnage, en l'occurrence Rassam, c'est pour moi c'est très valorisant.
Sandrine Kiberlin, vous connaissiez ce personnage, Jean-Pierre Rassam, ce producteur ?
De nom, bien sûr.
On vous en avait parlé ?
Bien sûr, j'en ai entendu parler beaucoup. Je connaissais un des fils, enfin je connais les fils aussi.
Oui.
Un plus particulièrement qui n'est plus là, Julien. Mais c'est des personnages.
C'est le fils de Berry.
Ah oui, pardon.
Tout est extrêmement entremêlé.
Dans ces histoires, tout est tellement... C'est comme une famille.
Il se faisait appeler Rassam. qui est très étrange.
Oui, il s'appelait Julien Racine.
Julien
en
se
fait.
Faisait appeler Racine, alors qu'il
et il parlait souvent.
S'appelait de... Langman.
Ouais, ouais.
Mais c'était la rivalité entre son oncle et son père qui était déjà
inscrite dans l'ossement qu'il s'était
père,
choisi.
Très très particulier. Ouais. Mmh. C'est une famille complètement étonnante. Je dis une famille parce que c'est vrai qu'ils étaient tous imbriqués les uns dans les autres. Là, on a l'impression de personnalités très fortes et très très déterminantes pour le cinéma en l'occurrence.
Bien sûr.
Alors
justement, à propos de cinéma, le livre produit aussi parfois un discours critique sur le cinéma. Je pense notamment aux pages consacrées à l'enfance nue de Piala, contre le vieil homme et l'enfant de Berry, l'un prenant l'autre à revers, c'est en tout cas ce que vous écrivez. Qu'est-ce qui se joue dans cette opposition-là pour vous, Christophe Donner?
Il se joue une rivalité d'hommes qui se disputent la même femme, en l'occurrence la sœur de l'un et la femme de l'autre. Et puis ça recoupe aussi des rivalités philosophiques, éthiques, politiques. Et voilà, ils ne font pas le même cinéma.
De quel ordre ?
Entre Piala et Berry, on voit bien que ce n'est pas les mêmes films. Et quand on voit ces deux films qui parlent de l'enfance, qui sont leurs premiers films, donc avec une charge autobiographique évidente, même si elle est truquée parfois, exagérée à certains moments, ce sont des films de première plainte psychanalytique. Bon. Et donc, il se joue beaucoup de choses dans ces premiers films. Et comme par hasard, quand on les prend, quand on les compare tous les deux, on trouve des correspondances incroyables entre le vieux monsieur qui prétend qu'il a fait la guerre le vieil homme et l'enfant et qu'il a des cicatrices, en fait c'est l'appendicite, et puis le même vieux, pratiquement le vieux dans le film de Piala, qui est un vrai résistant et qui se vante pas du tout, qui est tout à fait humble, etc. Et il y en a comme ça des dizaines de réponses. Alors peut-être inconscient, peut-être, je ne sais pas, mais tellement évident quand on les regarde l'un et l'autre que je ne pouvais pas me passer de le noter. Quoi.
Christophe Donner, on vous a demandé d'apporter un son, et voici ce que vous avez choisi.
Le sujet du film, c'est quand même l'histoire d'un enfant qui est placé chez du nourricier, et le héros, c'est cet enfant. Et là, ça ne va plus du tout. Ça ne va plus du tout parce que je crois que j'ai involontairement... Ça, c'est quelque chose que j'ai depuis peu. J'ai édulcoré. Oui, je n'ai pas été jusqu'au bout. Par exemple, je savais, avant de commencer ce film, qu'il y avait dans la population d'un centre de placement un pourcentage de suicides assez élevé. Et il se trouve, je ne le recherchais pas. C'était comme ça, ça se présentait. Que les enfants qui m'avaient servi de modèle, l'un... s'était suicidé, mais vraiment, il s'était pendu dans les chiottes avec la laisse du chien. Et le second, il a avalé des cachets parce qu'il était refoulé, justement. Enfin, c'est la fin du film, si on veut. Et comment se fait-il? C'est même une question que je me pose à moi. Ça vous arrange peut-être pas que je vienne dire des choses comme ça dans une émission, parce qu'habituellement, on plastronne un peu. Comment se fait-il que moi, j'ai éliminé tout ça et que ça ne soit pas dans le film? Parce que peut-être, d'une certaine façon, je cherchais à plaire, je cherchais à faire ma pute, je la faisais mal parce que je n'avais pas compris la musique aussi bien que les autres et que je ne vendais pas bien ma salade, mais que, dans le fond, je ne voulais quand même pas trop effrayer tout. Peut-être qu'aujourd'hui ou demain, ça plairait.
Identification de ce son, Christophe Donner.
C'est le génie pur pour moi, il y a tout là-dedans.
Maurice Piala.
Il y a tout, il y a l'audace, la provocation, la tendresse, la sensibilité, l'enfance malheureuse et en même temps le panache, l'autocritique, l'intransigeance, l'humilité. Enfin, il y a tout, quoi. C'est génial.
Quelque chose d'ailleurs, ce passage qu'on retrouve dans le roman. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Maurice Piala? Je crois que c'est assez important.
Ah oui, carrément. Ah, je ne sais même pas par où commencer, tellement c'est...
À l'origine d'un parcours d'actrice,
sujet... Ah ouais, vraiment, parce que j'avais vu... moi, j'ai commencé un peu... Pas dans l'ordre, en fait, Maurice Piala. Je l'ai vu, j'avais l'âge de Sandrine Bonnaire dans À nos amours, et j'ai commencé par À nos amours, qui a été un choc pour moi, mais vraiment dingue. Enfin, un choc d'actrice, d'abord, parce que c'était Sandrine, et puis de cinéma, et puis de ton... d'un genre de film qu'on ne me montrait pas à la maison. Et je suis tombée sur ce film. Je pense que ça a changé ma vision du cinéma, de la vie, de ce que pouvait être une actrice. Enfin, elle a ouvert la voie pour moi, Sandrine Bonnaire, je le dis souvent, mais c'est vrai, elle a ouvert vraiment, je trouve, une possibilité large de devenir actrice pour des femmes qui n'étaient pas forcément dans un, comment dire, dans un, une beauté classique, même un tempérament classique. Enfin, et puis Maurice, moi j'ai eu la chance de le rencontrer plutôt vers la fin de sa vie, et on parlait pas mal au Jardin du Luxembourg avec Sylvie Piala. On s'aimait bien avec leur fils qui était petit, que j'ai revu, qui a beaucoup grandi d'ailleurs. Et il m'avait donné, sachant que j'avais une fille qui s'appelait Suzanne, il m'avait donné l'affiche du film À nos amours. Donc pour moi, c'était très précieux, puisque c'était le film qui m'avait donné envie, enfin qui m'avait donné la possibilité d'assumer mon choix d'être actrice en fait. Et là, tout à coup, il me donnait l'affiche du film qui s'appelait À l'origine Suzanne, et qui est dans la chambre de ma fille chez son papa.
C'était très familial ce soir. Hein,
oui, dis donc. Hein.
Très bonne photo.
Oui, oui, oui. L'info, elle dit, il est mort, il est mort, il est mort.
Oui, c'est l'antidote à la plainte.
Merci à nos invités. Sandrine Kiberlin, Elle l'adore, sortira en salle mercredi prochain. Christophe Donner, Quiconque exerce ce métier stupide mérite tout ce qui lui arrive, apparu aux éditions Flammarion. Pas du tout, je crois que c'est Grasset.
Mais oui, c'est
exactement.
Grasset, il faut Grasset quand même.
Toutes les informations concernant Univers Nino sont disponibles sur le site du Rendez-vous. Ça, c'était pour aujourd'hui. Et demain ? Demain, il faudra attendre lundi, ce sera un massacre avec Toby Hooper, l'auteur de Massacre à la tronçonneuse, et Métamorphose littéraire avec la romancière Joyce Sorman. Des annonces, Hippolyte ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Manou Farine, Adrien Nazelli et Hippolyte Babilotte. Journal de la culture et le supplément week-end, Zoé Sfez et Benoît Lagan. À la technique, Jacques Azubert, Juliette Delperroux. À la programmation musicale et à la réalisation, Thomas Beau.
Sandrine Kiberlin est sidérée. Ouais,
j'aime beaucoup ce parti pris.
Il est 19h54, vous écoutez France Culture, c'est bien.